Conversation secrète, Philippe Vasset, Pierre Gatineau. Aujourd'hui, les espions dans l'ombre des réseaux, Israël. En cet été 2019, le Mossad fait une nouvelle fois la couverture des journaux français. Le service israélien est soupçonné d'avoir recruté un agent de la DGSI, le renseignement intérieur. Si le dossier paraît bien mince, il illustre la fascination, faite d'admiration et de méfiance mêlées, que suscitent les espions israéliens, en particulier en France. En quelques formules lapidaires, l'ancien directeur de la DGSE, Jean-Claude Cousserand, résume la vision de nombreux cadres du renseignement français sur leurs homologues israéliens.
Le seul pays où c'est parfait, c'est Israël. Hein, c'est là, effectivement, il y a une sorte d'adhésion et de sentiment très profond, à la fois d'admiration, de considération pour la technique des gens des services et de respect, d'une certaine manière. Donc là, il y a ce cas, le cas israélien, est très caractéristique.
Comment un pays plus petit que la région Pays de Loire, âgé d'à peine plus de 70 ans, a-t-il réussi à s'imposer comme une puissance majeure du renseignement, au point d'être crainte par ses alliés eux-mêmes?
Israël est un pays récent, entouré de voisins qui souhaitent le renvoyer aux oubliettes de l'histoire. Le risque d'anéantissement a constitué un moteur extrêmement puissant pour les espions israéliens. Longtemps numéro 2 du Conseil de sécurité nationale sous Ariel Sharon, après une carrière secrète au sein du ministère de la Défense, Chuck Freilich éclaire cette genèse.
Tout commence par le fait qu'Israël a toujours vécu sous une menace sévère, voire extrême. Cela a commencé à l'époque où il n'était pas assuré qu'il y ait un jour un État. Après l'indépendance, la survie d'Israël n'a pas été garantie pendant des décennies. Même aujourd'hui, beaucoup pensent qu'Israël fait toujours face à des menaces existentielles, notamment nucléaires. Beaucoup dans le pays pensent cela. Même hors Iran, le Hezbollah reste une menace majeure. Le Hamas est aussi toujours un acteur important. Donc le renseignement a toujours été primordial. Et comme Israël est exigu, les marges de manœuvre en termes de sécurité sont toutes petites. Le pays fait 80 km de profondeur à son maximum. Et au centre, le pays fait 14 km, voire seulement quelques centaines de mètres plus au sud. Du fait de cette taille, les marges de manœuvre sont très réduites. Et en cas de menace, notre capacité à disposer d'alertes très précoces est absolument déterminante. Car en théorie, le pays peut être investi en quelques heures. Donc le renseignement a toujours un rôle prépondérant, en particulier les alertes avancées du renseignement militaire lorsque les pays voisins ont voulu lancer des attaques il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, le renseignement n'est plus un besoin aussi immédiat dans la majeure partie des cas, disons pour les attaques du Hamas ou du Hezbollah. La menace iranienne se situe beaucoup plus sur du long terme. Mais parce que les alertes avancées fournies par les services ont joué un tel rôle et ont assuré la survie du pays, l'armée a un statut social très prestigieux dans le pays et le renseignement est vu comme un secteur d'excellence au sein de l'appareil militaire. Donc c'est devenu très prestigieux au fil des ans. Et donc, quand les jeunes font leur service militaire, ce que la plupart font, ils essaient d'aller dans le renseignement.
La mythologie du Mossad s'est nourrie de ce rôle de veilleur, mais également des opérations spectaculaires que le service a menées hors d'Israël. Affaire des vedettes de Cherbourg, infiltration dans l'entourage du président syrien Hafez el-Assad, du raïs égyptien Nasser, traque du mouvement palestinien Septembre Noir après les Jeux Olympiques de Munich. Autant de missions dont le monde a appris l'existence presque en direct.
La toute première opération d'ampleur qui a fait entrer le jeune Mossad dans la cour des grands de l'espionnage reste la traque et l'enlèvement d'Adolf Eichmann en 1960. Et ce, au nez et à la barbe des autorités argentines qui le protégeaient. Un film israélo-américain, Opération Finale, sorti en France sur Netflix il y a quelques mois, fait revivre la traque d'Eichmann et s'attarde sur le face-à-face entre l'ancien responsable de la Shoah et le chef de l'unité du Mossad en charge de l'opération, Peter Malkin.
Si vous réussissez, nous refusons que l'œuvre macabre de Eichmann ne sombre à tout jamais dans les limbes de l'histoire. Pour la première fois, notre bourreau sera sur le banc des accusés. Cela pourrait dissuader quiconque voudrait marcher dans ses pas. Si vous échouez, il échappera à la justice. Peut-être pour toujours. Au nom de notre peuple, pitié, n'échouez pas. Le recueil de notre mémoire dépasse les frontières de l'histoire. Des chapitres s'y écrivent encore. Et c'est à votre tour d'être la plume entre nos mains.
My name is Tal Dilian.
Mon nom est Tal Dilian.
In and around this industry for either 20 years or 50 years.
Je suis dans ce secteur depuis 20 ans ou 50 ans, non. 50 ans, c'est trop. Peut-être 30 ans.
I was many years in the intelligence, in the Israeli intelligence.
J'ai travaillé longtemps dans le renseignement israélien, pendant 24-25 ans.
And then, by coincidence, bumped into the intelligence, not even the homeland
security. Puis, par coïncidence, dans l'industrie du renseignement, je ne dis pas de la sécurité, mais bien du renseignement, depuis 10 ans. Je dirige aujourd'hui ma deuxième ou troisième société dans cette belle industrie du cyber-renseignement où j'adore travailler. Je pense que dès les tout débuts de la création d'Israël, nous avons compris que le besoin en renseignement était crucial. Si vous prenez la taille du pays, si vous prenez l'état des relations avec les autres États voisins jusqu'à il y a au moins 20 ans, vous n'aviez en fait pas le droit à l'erreur. Disons que quelqu'un veuille déclarer la guerre aux États-Unis ou au Royaume-Uni, comme au Malouin, cela vous prend 3 semaines, ne serait-ce que pour arriver chez eux. Israël ne peut pas se permettre ça, ou ne pouvait se le permettre, du fait de la taille du pays, jusqu'à il y a 20 ans, quand l'Égypte, la Syrie et les autres nations riveraines étaient encore fortes. Vous deviez avoir le renseignement dans le but de pouvoir réagir le plus vite possible. Je pense que ces 20 dernières années ont un peu changé la donne. En fait, les ennemis immédiats ont pratiquement tous signé la paix ou ont disparu en tant que puissance. Mais l'islamisme radical a en parallèle émergé et créé un nouveau défi pour le renseignement israélien. Le challenge n'est plus aux frontières. Le challenge est mondial. Avec ça, le renseignement reste l'un des plus importants, sinon le plus important, composant de la stratégie de défense israélienne.
כוכב הסמל הזה מעליי, אין לי על מי להסתלבט איתו כאן. הנה מתעף ללא עיניי, דופק לי על שער הגן.
נכנסים ירצה ותותחי
Très secret, Tal Dilian a accepté de parler à notre micro par amitié, dans un hôtel non loin de la Tour Eiffel. S'il est aujourd'hui un homme d'affaires prospère qui vend des outils de renseignement aux États du monde entier, il a surtout dirigé l'un des services les plus secrets d'Israël. Sobrement baptisé Unité 800, ce service, dont l'existence est reconnue du bout des lèvres par les responsables israéliens, est en charge des opérations clandestines sur les réseaux informatiques. Avec l'arme nucléaire, le cyber est l'autre atout majeur du pays pour intimider ses ennemis. Les espions du monde entier se souviennent encore du virus Stuxnet, construit par les Américains puis perfectionné par les Israéliens, qui a décimé les centrifugeuses nucléaires iraniennes en 2010.
Le cyber est une dimension dont il est très sexy de parler. C'est une dimension nouvelle. Et comme toute nouvelle pratique, au début, vous n'avez pas de règles. Ou plus exactement, les règles ne sont pas encore assez fortes pour contrôler ce qui se passe dans cette sphère. Donc les pays sont très vulnérables sur le cyber. Et c'est une vraie faiblesse car le cyber entre jusque dans votre maison, votre téléphone, etc. Si demain un hôpital est bloqué par une cyberattaque, que des hackers bloquent une compagnie d'électricité et demandent une rançon, chacun va le voir et le sentir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le cyber est plus dommageable pour un pays qu'un bon vieil espion qui trouve un moyen de compromettre votre sécurité. Mais ce dernier risque est connu, habituel. Et s'il affecte chacun de nous, nous ne le sentons pas. Alors que dans le cas du cyber, cela nous affecte tous, et nous le sentons, nous le voyons immédiatement.
Comment Israël, un pays de 8,7 millions d'habitants, en est-il venu à jouer à jeu égal sur les réseaux avec les États-Unis, la Russie et la Chine?
C'est la suite logique des développements des autres aspects des nouvelles technologies, comme les télécommunications dans les années 90, puis le cyber à partir des années 2010. Je pense que c'est lié à la relation tout à fait unique en Israël entre le secteur privé et les départements technologiques de l'armée et des services de renseignement. Si le renseignement est un des éléments les plus importants en Israël depuis sa création, le second serait l'armée de l'air, le troisième serait la technologie. Israël pousse depuis toujours les jeunes générations à aller à l'université puis à s'enrôler dans l'armée. Cela crée une relation unique avec les meilleurs étudiants dans les matières comme l'ingénierie, les sciences informatiques, sans doute un millier par an. Puis après 3-4 ans d'université, ils entrent dans l'armée, les meilleurs d'entre eux dans le renseignement. Puis encore après, 6 ou 8 ans plus tard, ils reviennent sur le marché du travail. Ce phénomène ramène chaque année des gens d'environ 28 ans, avec des compétences incroyables, et qui se retrouvent dans la meilleure position pour créer leur propre start-up. Cela crée le mécanisme vertueux derrière le secteur high-tech et cyber israélien. Aller dans l'industrie de la tech, après avoir été dans l'armée, n'est pas du tout bien vu par le ministère de la Défense, qui préférerait garder ses compétences par-devers lui. Mais de toute façon, le secteur israélien de la tech n'a aujourd'hui plus besoin d'un quelconque soutien du ministère de la Défense. Si on remonte au début des années 90, quand il n'y avait que quelques investisseurs américains qui mettaient de l'argent dans les nouvelles technologies et pas du tout en Israël, ou un seul, Beirut, c'est en réalité le département israélien du Trésor qui a mis en place un système très intéressant pour encourager la création de fonds d'investissement dans le secteur, en mettant en place le système dit du « dollar per dollar investment ». C'est-à-dire que le Trésor a dit aux potentiels investisseurs dans les start-up « si vous mettez 2 millions dans cette société, on rajoute 2 millions ». Et ils l'ont fait dans plein de sociétés. C'est en fait ce mécanisme qui a fait exploser le secteur high-tech israélien dans les années 90. Donc en fait, ce n'est pas le ministère de la Défense, mais le Trésor qui a le plus aidé le secteur cyber. 10 ans après, ce système dollar per dollar a été abandonné. Le Trésor a dit « Non, maintenant c'est un marché libre et solide. » Et je pense que c'est un marché solide. Ce doit être le 4e, après la Silicon Valley à Palo Alto, le premier au monde, puis Boston et le Royaume-Uni.
Asir der Manzir in meine Kinderjahr und wie auch allem wird mir alles klar. Wie seid euch durch die Balle, wo es hat geglanzt, und das Beimalle, wo sich alles verpflanzt. Oi, 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 Belz,
yeah, yeah,
mein Steigele Belz,
yeah,
mein Heimalle dort, wo ich hab, meine kindrische Jorn verbracht.
Rappelle-toi des beaux jours, man.
Mein Städtel, Bell.
On peut pas retourner, man. What?
Mein Heimale dort, wo ich hol. Meine kindische Jorn verbrannt.
I'm saying, only stuck dans le présent,
yeah, everybody's talking about the good old days. Every Friday night we're staying up too late. Can't get a ride from mom, so you make the whole crew wait. Bonfire, pool party, PD days and spring breaks. Running through the forest, jumping in late. We were spoiled, upper middle class, living a life of ease. Worst case scenario, yo, we're skinning our knees. I think today if I could, I would run back. But it's never the same when you try to come back. Come back, come back,
come
back.
Rock the bells!
Mein Bells.
Yeah, yeah.
Mein Heimale dort, wo ich hab, meine kindrische Jorna.
Mon père me disait que c'était pas le temps. J'ai jamais connu mes cousins ou mes grands-parents. Là-bas le monde n'a rien à manger. Ils n'ont pas d'argent, le monde se font exploiter. C'est une tragédie. Le sida qui se propage, les maladies. Ce qui se passe là-bas c'est 10 fois pire de ce qui se passe ici. Ça me fait de la peine, mais ici c'est même pire.
Some of the songs are songs of nostalgia for a world that existed, for a world that no longer is accessible or that no longer even is on the map anymore. Belz, Belz is a little town, a shtetl that they used to call, and the person recalls the days that he spent there as a boy. And he remembers going to the pond with the other boys, throwing stones into the pond. But now, the roof is leaky, there's no panes in the window, and everything seems gone. But what is still there is the memory.
Bist du bis alt, verwachsen mit groß, der Dach zerfault, die Fenster und los. Der Ganik ist krumm, zerbeugen die Wend. Ich wollte schon mehr gar nicht erkennen.
There was one of the guys in the intelligence probably 20 years ago used to say that the future is known but very hard to predict. The past always change.
Un grand du renseignement a dit il y a 20 ans que le futur est très dur à prévoir, car le passé ne fait que changer.
It happened, and different sectors of the government were responsible for different stages.
Donc on peut toujours dire, maintenant que c'est si fort, oui, vous savez, on avait prévu ça depuis le départ. Mais en réalité, c'est juste que c'est arrivé, car plusieurs branches du gouvernement ont pris des décisions à différents moments qui ont finalement favorisé l'émergence du secteur cyber. Le ministère de la Défense, pour répondre aux besoins technologiques de l'armée dans les années 80, a créé ce qu'on peut appeler des laboratoires nationaux. Puis quelques pionniers ont quitté l'armée et ont créé leur société high-tech et cyber par eux-mêmes. Puis dans les années 90, le Trésor a mis en place cette politique volontariste de génie. Sans trop savoir même ce que le high-tech allait devenir. À cette époque, Microsoft n'avait pas encore 10 ans d'existence. C'est donc un peu arrivé étape par étape. Ça n'a pas été pensé en amont, même si le résultat est vraiment unique.
Depuis quelques années, la fiction israélienne s'est saisie de ces thématiques. Produites à l'origine sans beaucoup de moyens, les séries du pays s'imposent à l'étranger, via Netflix, grâce à leurs intrigues touffues et nerveuses. L'une des dernières en date, False Flag, s'inspire au départ d'une vraie opération d'assassinat du Mossad contre un haut cadre du Hamas à Dubaï en 2010, mais en déplaçant l'action entre Moscou et Téhéran. Enchaînant les coups de théâtre, la série construit un univers où personne n'est réellement ce qu'il paraît être.
Je veux tous les relevés téléphoniques de Lippmann et de Raphaël.
Je te passe le chef.
Je veux savoir s'ils connaissent les mêmes personnes, s'ils appellent les mêmes numéros, s'ils commandent des pizzas au même endroit. Essaie de me trouver tout ce que tu peux. Oui, Woody.
Je viens de passer plusieurs coups de fil. C'est officiel. C'est pas une opération du Mossad.
Moi, alors, je continue l'enquête.
Évidemment, tu continues. On doit comprendre ce qui se passe. Du nouveau, entre-temps ?
Je vérifie les antécédents des 5 suspects, mais pour l'instant, j'ai rien de concret.
Réunion avec le Premier ministre dans une heure.
Woody, j'ai pas le temps.
Cette enquête est sous la responsabilité du Shin Bet. J'ai besoin de toi à cette réunion. Tu viens.
C'est pas le Mossad.
On fait quoi maintenant ?
L'excellence israélienne en renseignement cyber est même devenue un outil diplomatique. Nombre de pays qui, officiellement, n'entretiennent aucune relation avec l'État hébreu s'équipent en douce de logiciels fabriqués par les sociétés des anciens cyber-espions israéliens. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats ou encore le Pakistan, sans compter les trois quarts des pays d'Amérique latine et du Sud-Est asiatique, sont des clients réguliers de ces entreprises.
I think that always,
je pense que ça a toujours été le cas pour les innovations technologiques en Israël. Dans les années 70, par exemple, c'était les technologies agricoles, notamment les systèmes d'irrigation qu'Israël a inventés, qui ont permis au pays de s'implanter en Afrique. Vous avez donc aujourd'hui beaucoup de relations bilatérales entretenues par Israël qui sont basées sur le soutien à l'agriculture. Clairement, aujourd'hui, le cyber est un champ qui remplit la même fonction. Il permet aux dirigeants israéliens de parler à des homologues de pays qui ne nous parleraient pas spontanément. Surtout qu'ils partagent les mêmes menaces, le terrorisme en premier lieu, le crime ou l'extrémisme politique ou religieux. Le cyber est une bonne première marche pour collaborer.
Mais cet activisme des entreprises israéliennes sur tous les marchés de la surveillance inquiète en dehors de ses frontières. Plusieurs ONG européennes et nord-américaines accusent les fabricants israéliens de technologies de surveillance, comme le groupe NSO, de fournir à des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar des outils qui servent in fine à traquer leurs opposants.
First of all, I think that the industry, the homeland security industry, the defense industry is probably the most monitored and regulated industry in the world. Worldwide and definitely including in Israel, if you will.
Premièrement, je dirais que les industries de défense et de sécurité sont certainement le secteur le plus contrôlé et régulé dans le monde, et clairement en Israël aussi.
So it's regulated in Israel, it's regulated in Europe, and it's regulated in the US. And by the way, if you dive into these regulations, they are quite similar.
Si vous écoutez les gens du secteur en Israël, ils vous diront que c'est même beaucoup trop contrôlé. C'est aussi très contrôlé en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, les réglementations de ces pays sont assez similaires. Israël a même été l'un des premiers pays à adopter les accords de Wassenaar, qui est le seul texte de régulation un peu mondial dans notre secteur.
Donc
je ne pense pas que ce soit un problème de régulation. Ceci étant dit, les ONG et les groupes de défense des droits de l'homme sont importants. C'est une partie du balancier entre le respect des droits et la sécurité. Je pense que personne n'a d'ailleurs encore trouvé le bon équilibre entre ces deux besoins. Il manque au cyber un droit comme celui qui existe pour la guerre. C'est immoral, mais on sait ce qu'une armée peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, etc. Les sociétés de cyber créent des outils comme des armes construites pour des good guys. Maintenant, les good guys peuvent utiliser des bons outils d'une mauvaise manière. Mais vous ne pouvez pas blâmer la société qui a construit l'outil. Vous ne reprochez pas à des grands groupes américains de défense, comme Northrop Grumman, d'avoir vendu un avion de chasse à un pays qui vient d'attaquer un autre pays. Personne ne fait ça. Le groupe américain a vendu cet avion avec l'accord des autorités américaines. C'est pareil dans le cyber. Vous ne pouvez pas reprocher à une société d'avoir créé un outil utilisé d'une mauvaise manière par quelqu'un d'autre.
Somebody else is responsible for misusing of a tool. So I would expect the countries of the world, whether it's the US or the EU, to stand and.
J'appellerais plutôt de mes vœux que les grands pays se mettent d'accord sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire dans le domaine. Et nous nous y tiendrons. C'est plus important. C'est là-dessus que les ONG, qui sont importantes, devraient insister, plutôt que de cibler telle ou telle société. Probablement 99,9% des sociétés israéliennes ne dérogent pas aux réglementations. Je ne connais pas de société qui soit du mauvais côté de la lune, comme on dit. Many years ago, each one of us to be with the good guys. We believe we work very hard and we provide amazing. Nous, ce qu'on veut, c'est produire les meilleurs produits possibles pour les fournir aux good guys.
Or a terror organization is unveiled because of our tools. Frankly, we are very proud.
Quand un réseau djihadiste ou une organisation criminelle ou terroriste est démantelé grâce à un de nos outils, franchement, j'en suis très fier. Quand on en fait un mauvais usage, personne n'est fier de ça. On ne peut pas aller voir notre client et stopper son service. Nous n'avons pas accès à nos outils une fois vendus, tout comme un vendeur n'a pas accès à un avion de chasse. Ce n'est pas aux sociétés privées de créer la morale du monde en la matière. C'est aux États. Aucune des personnes qui nous écoutent ne voudrait vivre dans un monde où la police n'a pas les cyber-outils nécessaires pour arrêter les criminels et les terroristes. Ces mêmes personnes ne veulent pas non plus que ces outils soient mal utilisés sur des activistes, sur des opposants.
כמו ארץ
מתוקה, אפילו שרוצה תקווה. דוחה כל גינונים שמחזה, דווקא אז אני אוהב אותה יותר, דווקא אז אני אוהב אותה יותר. אהובתי כמו ארץ ניפה, יש בה נקריון בוהר בצח, שאם אני מעט מלוכלן, אפילו שרוצה תקווה, לא תקדם להתקרב, לא תיאטר. דווקא אז אני אוהב אותה יותר, דווקא אז אני אוהב אותה יותר.
Well, I think that the whole practice around the cyber is in a way wrong from the basic, and it will change, but it will take maybe like in other dimensions.
Eh bien, je pense que toute la pratique autour du cyber est dans une mauvaise voie depuis les fondations. Mais c'est en train de changer. Cela va prendre du temps, comme dans les autres matières du renseignement. Cela va prendre 20 ou 30 ans pour trouver la juste mesure entre ce que j'appellerais le respect des droits individuels et la sécurité publique. Si on prend le cyber comme un champ de bataille, au même titre que la terre, l'air ou la mer, le régime juridique qui gouverne la mer, et encore plus l'air, interdit à un appareil de prendre la mer sans un nom, un propriétaire, et sans destination connue. Donc il y a des règles, des frontières, comme sur la mer, ou sur la terre, sans doute l'endroit le plus régulé. Et donc maintenant nous avons cette nouvelle dimension, le cyber, où nous avons tous eu une approche très naïve. Tout l'Internet a été créé pour se mouvoir sans identité, sans prendre de responsabilité et sans dire d'où vous venez et où vous allez. Évidemment, cela crée une dimension formidable pour nous, les sociétés dans le cyber, pour nous faire plein d'argent. Mais dans le fond, cela nécessite d'être régulé différemment. Cette question est à la base de tout. Maintenant, vous pouvez voir que, de par le monde, tout le monde parle de réguler l'Internet, même aux États-Unis. J'ai attendu ce moment depuis longtemps. L'Australie est en train d'adopter une régulation renforcée. Et c'est pareil dans de plus en plus de pays. Si vous me demandez, on aurait en réalité besoin de reconstruire Internet de zéro, ce qui ne serait en fait pas très compliqué. Juste, il ne faut pas autoriser de présence anonyme sur le réseau. Évidemment, vous diriez, on n'autorise pas l'anonymat dans le monde physique, et pourtant, les gens volent tout de même les identités, commettent des crimes, sont des terroristes, etc. Ok, mais il y a 2 ou 5% des gens dans le monde qui sont des terroristes ou des criminels, et ils doivent faire un gros effort pour pouvoir opérer dans le monde réel. Juste faisons en sorte que ce soit aussi difficile pour eux dans le cybermonde. La question qui se pose est celle de l'équilibre avec le respect des droits à la vie privée. Aujourd'hui, cet équilibre est beaucoup trop en faveur de la protection de la vie privée, et donc des bad guys plutôt que des good guys. Aujourd'hui, les grands groupes américains de technologie présentent des produits au marché disant que leurs applications assurent la meilleure façon de se cacher des autorités. Ce qui revient à dire qu'elle crée la meilleure technologie pour les bad guys. Vous me direz, cela crée un terrain de jeu très sympa pour les gens comme moi, qui peuvent fournir aux autorités des outils permettant d'identifier les bad guys qui utilisent les meilleures technologies de vie privée du monde, produites par les grands groupes américains. Mais en termes de régulation, ça n'a aucun sens. Surtout que les règles et les lois sont toujours beaucoup plus lentes à aboutir que le développement des technologies. Donc ça va prendre du temps.
Slow after the technology, so it will take time.
Habibi
Si le renseignement s'est transformé en produit d'exportation et contribue désormais à la croissance israélienne, il demeure, à l'intérieur du pays, un sujet politique hautement inflammable. De toutes les démocraties que nous avons visitées pour ce tour du monde de l'espionnage, Israël est le pays où les questions de renseignement subissent les pressions politiques les plus fortes. Tal Dignan.
Israël est un petit pays. Tout le monde se connaît. Tous les services de renseignement ont le Premier ministre pour interlocuteur direct. Ce, afin d'avoir une boucle très courte entre le renseignement et la prise de décision politique. Mais aussi que le Premier ministre puisse entendre des avis de services qui divergent. Cette organisation date de la guerre de 1973. Si vous vous souvenez, il y avait alors eu une énorme erreur. Le rapport commun que les services de renseignement ont donné au Premier ministre disait qu'il n'y aurait pas de guerre. Donc le système a été modifié après cet échec pour que chaque service ait un accès direct. L'idée étant d'ouvrir les vannes pour que différentes opinions arrivent aux décideurs politiques sans aucun filtre. Pour qu'il n'y ait pas à nouveau une situation où quelqu'un pense dans un autre sens que l'opinion majoritaire, mais que ça n'arrive pas jusqu'en haut. Donc on a ouvert les canaux, et comme ça, chacun des trois ou quatre services de renseignement reporte, chacun à leur manière, directement au Premier ministre.
Le Conseil de sécurité nationale israélien a été créé en 2000.
Chuck Freilich.
Il est placé directement sous la tutelle du bureau du Premier ministre. Il a été établi pour traiter les questions sécuritaires, mais aussi pour définir la politique sécuritaire du cabinet. C'est une intéressante expérience qui revient à importer le modèle américain, à savoir un système présidentiel, dans un système parlementaire intégral comme le système israélien. C'est très difficile. Israël a été le premier pays parlementaire à le faire, en même temps que les Indiens et quelques années avant que les Britanniques ne le fassent. Dans l'environnement israélien, très politisé, il est bien sûr difficile pour un organe technique comme le Conseil de sécurité de jouer le rôle qu'il a dans un système présidentiel, dans le sens où un ministre de la Défense ou des Affaires étrangères ne veut pas être, en quelque sorte, subordonné à un organe interministériel. Ils ne veulent pas forcément se plier au système des comptes rendus réguliers au Conseil de sécurité. Donc, il y a une forte résistance bureaucratique dans les premières années. Mais en 2008, à la suite de la guerre non gagnée contre le Hezbollah de 2006, beaucoup de gens en Israël et à l'extérieur en sont venus à la conclusion que le système de prise de décision était très imparfait. Donc, à ce moment, une législation nouvelle sur le NSC a été votée, établissant précisément ses aires d'autorité, ce qu'il devait faire, et cela lui a apparemment été très bénéfique.
Actually,
En fait, la communauté du renseignement israélienne est très respectée, je pense, car elle est fondamentalement complètement apolitique et très professionnelle. Donc, les nombreuses fois où les gouvernants ont essayé d'influencer le contenu de l'analyse des services de renseignement, ça a échoué. Vous avez des règles du jeu. Par exemple, lorsque les chefs du renseignement viennent au cabinet du Premier ministre avec une analyse qui est diamétralement opposée à ce que les gouvernants souhaitent entendre. Bien sûr, cela engendre parfois des tensions dans la pièce. Mais il y a eu quelques cas de tentatives de politisation de ce que les gens avaient à dire. L'un de ces exemples, c'est la première guerre du Liban, en 1982. Le ministre de la Défense alors, Ariel Sharon, a essayé de faire taire les chefs du renseignement militaire qui portaient une analyse de la situation totalement différente de la sienne. Mais je ne me souviens pas d'autres exemples aussi criants. Je pense que c'est la même chose dans toutes les démocraties. C'est comme ça que les agents de renseignement sont supposés travailler. Et ils sont supposés être apolitiques. Et les leaders politiques sont supposés respecter ça. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'exceptions dans plusieurs pays au fil des années. Mais c'est vraiment quelque chose de très important en Israël. Et vous pouvez entendre les chefs de renseignement parler dans les réunions gouvernementales. Je les ai vus très souvent dans les réunions du Conseil de sécurité. Ils se tiennent loin des débats politiques du jour et viennent juste tenir leur position. C'est la même tradition que dans les forces armées israéliennes.
On peut entreapercevoir le processus décisionnel qui a longtemps présidé à la sécurité d'Israël dans une scène de Munich, le film de Steven Spielberg sur le commando chargé de venger les athlètes israéliens assassinés lors des Jeux Olympiques de 1972. On y voit notamment tous les maîtres espions débattre énergiquement de la réponse à donner à ces assassinats, puis le Premier ministre Golda Meir finalement décider de la conduite à tenir.
Nous avons 11 noms.
Donnez-nous l'ordre et on commence.
C'est comme pour Eichmann. Nous disons à ces bouchers, vous ne vouliez pas partager ce monde avec nous, alors nous n'avons pas à le partager avec vous. Il y a légitimité à cela, n'ai-je pas raison? Pris au piège et assassiné à nouveau. Pendant que le reste du monde ne pense qu'à participer à des jeux, des torches, des fanfares et des juifs morts en Allemagne. Et le monde n'en a que faire.
Mais nous avons répondu. Nous avons envoyé 70 avions de chasse.
Que personne n'a
des
entendu.
Attaques aériennes sur leur camp d'entraînement, ça c'est une réponse.
Personne ne remarque ce qui se passe dans ces camps d'entraînement.
Moins 60 Arabes morts, et qui sait combien de blessés.
Mais il s'agit pour nous de fixer l'attention du reste du monde.
Ce n'est pas juste un coup de publicité dont il s'agit. Laissez-moi vous rappeler. Ali Hassan Salameh, c'est lui qui a créé Septembre Noir. C'est lui l'architecte des meurtres de Munich.
Il faut bien l'avouer. Ces gens ont juré de nous détruire. Oublions la paix pour l'instant. Nous devons montrer que nous sommes forts. Nous avons des lois, nous représentons la civilisation. Certains pensent qu'on ne peut pas se permettre d'être civilisé, idée que j'ai toujours fortement combattue. Mais je ne sais pas qui sont ces maniaques et d'où ils peuvent bien venir. Des Palestiniens. Ils ne sont pas reconnaissables. Voulez-vous me dire quelle loi protège des gens comme ça? Aujourd'hui, je l'entends d'une autre oreille. Toutes les civilisations trouvent qu'il est nécessaire de négocier des compromis avec leurs propres valeurs. J'ai pris ma décision. J'en porterai seul la responsabilité.
It's that's
C'est l'un des aspects les plus positifs du système israélien. Tout le monde attend que vous disiez ce que vous pensez. Je pense que c'est une leçon directement inspirée par ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne. Et de dire « ceci n'arrivera jamais dans notre cas ». Mais quelles que soient les origines de cette tradition, c'est un point vraiment très intégré dans toute la communauté de défense.
Les pressions politiques très vives qui s'exercent sur les services de renseignement israéliens sont une conséquence directe du système parlementaire adopté par l'État hébreu. Les élections israéliennes sont des scrutins intégralement proportionnels, ce qui génère souvent des coalitions mal assorties où chaque parti négocie son ralliement en échange d'avantages.
Les discussions intergouvernementales en Israël sont plus des affrontements que des vraies discussions politiques. Dans une certaine mesure, les ministres du gouvernement arrivent aux réunions sur la sécurité nationale avec déjà les positions prédéterminées de leurs partis respectifs. Donc, il est dur d'atteindre un consensus sur des problèmes lourds. C'est dur d'avoir une délibération politique sérieuse. La manière d'obtenir un consensus, c'est que justement les chefs du renseignement viennent à ces réunions. Ils sont perçus comme les seuls acteurs neutres et objectifs de la pièce. Ils n'ont pas d'autre agenda que la défense d'Israël et de dire la vérité. Donc quand ils font leur présentation et disent ce qu'ils pensent qu'il est en train de se passer, cela fournit la base pour chaque acteur politique pour se dire « Ok, c'est donc la manière dont ça se passe. Donc, nous devons faire X. » Ils ont ce rôle de légitimation.
Cette position d'arbitre confère au maître espion une légitimité considérable que certains ont tenté de transformer en capital politique.
Il y a eu beaucoup de hauts cadres militaires qui, au fil des ans, ont sauté le pas et sont entrés en politique. Alors, certains étaient des anciens chefs du renseignement, par exemple l'ancien Premier ministre Ehud Barak, qui essaie d'ailleurs en ce moment de faire un comeback politique. Avant de se lancer en politique, il dirigeait le renseignement militaire. Les anciens chefs du Mossad, comme Meir Dagan, Tamir Pardo, ces dernières années sont devenus des critiques véhéments des politiques gouvernementales. Cela peut être dû au fait que leur entraînement, leur métier pendant toute leur vie professionnelle, les a amenés à se concentrer sur ce qu'ils estimaient être des informations vérifiées, objectives et neutres. Cela peut rendre plus difficile pour eux d'entrer dans l'arène politique où le respect de la vérité et des faits n'est pas une valeur aussi forte.
Tous nos maîtres espions le soulignent. La montée des extrêmes dans la vie politique israélienne constitue aujourd'hui la principale menace pour les praticiens du renseignement.
Obviously, internally.
De toute évidence, les enjeux de renseignement intérieur sont un peu plus politisés que les menaces extérieures. Et ceux dont c'est le métier sont souvent interpellés par le débat public. Mais le Shin Bet, le service de renseignement intérieur, maintient ses positions très claires, loin de la pression politique. Le service s'est retrouvé très régulièrement en porte-à-faux avec ce que les leaders politiques attendaient. Mais ils n'ont pas cédé. Voici ce que nous sommes supposés faire selon la loi, voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous allons faire. Et nous ne modifierons pas notre analyse en fonction de préférences politiques. Et au fil des années, vous pouvez voir que le service a généralement tenu bon. Je ne dis pas qu'ils n'ont jamais cédé, mais c'est très rare.
Ce sont précisément les hommes du renseignement intérieur israélien qui sont mis en scène dans la série Coup de poing Fauda, consacrée à la traque d'un chef terroriste palestinien dans les territoires occupés.
L'unité 8200 posera une antenne comme prévu à 400 mètres de la maison.
Bon alors le seul problème, tu vois, c'est l'accès à la maison. On peut pas verrouiller le périmètre. Ce serait beaucoup trop risqué pour l'équipe. Du coup, je pensais qu'on pourrait...
Non. Non.
Ah,
كيف هيك؟
منيح.
كان يا حبيب الشعب مبسوط اشوفك. كيفك يا حبيبي؟
شو الاخبار؟
انا منيح.
اتا منيح طيب. يا
دون سرا لا باس بوندون لوبيراسيون.
Non, en fait, j'ai changé d'avis. Je serai sur le terrain avec les gars.
J'ai raté un épisode ?
Tu lui as pas dit ?
Tu m'as dit qu'il fallait que tu t'occupes de tes grappes. Doron va identifier Abou Ahmad. C'est le seul à l'avoir vu vivant.
Mon frère, c'est ta décision, je veux pas m'imposer. Si tu veux que je reste à la base, je reste à la base. C'est toi qui vois.
On peut dire de manière honnête que l'appareil de sécurité nationale israélien apparaît comme bien plus centriste que le gouvernement qu'on a ces dernières années. En 2012, ce ne sont pas seulement les agences de renseignement, mais tout l'appareil militaire israélien, tout l'establishment sécuritaire du pays qui s'est élevé d'abord en privé, puis cela a fuité, contre la volonté du Premier ministre de lancer une attaque contre l'Iran. Le chef actuel du Shin Bet, Adav Argaman, vient, je crois, de la droite religieuse. Et son prédécesseur, qui est devenu le chef de la police nationale, venait aussi de la droite religieuse. Au départ, beaucoup ont craint que l'origine idéologique de ces deux dirigeants ne finisse par influer sur leur service. Mais à la fin, ce sont eux qui ont mené les investigations qui ont conduit à l'inculpation de Benjamin Netanyahou sous trois chefs d'accusation très lourds. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu cet entrisme craint de la droite religieuse. La peur que ça arrivait là, mais ce n'est pas encore arrivé.
The distance is shorter in between something being an intelligence issue to becoming a national.
Tel Dillon.
En Israël, la distance est courte entre le moment où un sujet est un dossier technique de renseignement est le moment où il devient un sujet politique, dans le sens où il devient un sujet poussé par les hommes politiques dans le débat public. Ma croyance personnelle, c'est qu'Israël est très puissant, la plus puissante des nations du Moyen-Orient, et que la seule vraie menace envers la survie du pays est intérieure, pas extérieure. Je pense que ces 20 dernières années, le pouvoir politique veut que les gens croient qu'il y a des risques extérieurs qui menacent l'existence du pays. S'ils existent, ils ne sont pas la principale menace. Le principal challenge de sécurité nationale d'Israël est de bâtir une vraie société qui réussisse à unifier des gens fondamentalement très différents, notamment les religieux. Memories, they aren't even mine. The dry wind wails till my song is blown away.
At night I look to the stars. Merci à Jean-Claude Cousseran, Chuck Freilich, Tal Gillian. Mixage Pierre Henry, réalisation Rafik Zanine. C'était Les Espions dans l'ombre des réseaux, Israël, dans la série de Philippe Vasset et Pierre Gatineau, Conversations secrètes.